Terror States.
Et non, mes bons amis, nous ne sommes pas des terroristes. Divergence numérique, 147e émission, deuxième de la saison 10. Gilles Gouget avec vous, Pascal Rullier est fort occupé aujourd'hui et il n'a pas pu être avec nous, mais il nous a sélectionné des pauses musicales pour cette divergence numérique avec un groupe intitulé McCandless. Extrait de l'album On Sundays I Dream, Je rêve les dimanches, un duo formé de Mike Hemsley et Max Forteringham, enregistré et mixé par Wouter Gortz pour Higher Living Records. Et on écoutera quatre titres tout au long de cette émission de la musique en licence Creative Commons by NCND 3.0. Quoi d'autre dans cette 147e divergence numérique ? Évidemment, l'incontournable revue de presse de l'april pour la semaine numéro 45 avec Luc, Manu et Nico. On parlera aussi de l'actualité à l'april, à savoir notamment de la circulaire Héro dont l'april a remis une analyse détaillée. Et on parlera aussi du brevet unitaire en Europe où, encore une fois, côté français, il semble urgent de ne rien faire ou comment appliquer à la lettre la politique de l'autruche. Jeanne Tadeuse de l'april sera avec nous au téléphone pour en parler. La semaine prochaine, on aura au téléphone les organisateurs des RMLL 2012, Alexandre Polterac et Lionel Lourdin, qui nous font faux bond aujourd'hui, car ils sont eux aussi très occupés, décidément tout le monde est très occupé ces temps-ci. On écoutera un extrait de Radio Remeleleu pour cette année, avec notamment une interview de Karim Benzined et Jacques Guyot, qui nous parle du logiciel Olanto, un logiciel de traduction, un logiciel libre bien entendu. Et puis les agendas du libre émailleront la fin de cette divergence numérique. Pour l'heure, c'est tout de suite avec la revue de presse que nous enchaînons.
Liberté, égalité, fraternité.
Une majorité de la société mise en esclavage.
Que l'argent public doit payer qu'une fois.
Et là, c'est la voix du peuple qui a parlé.
Revue de presse hebdomadaire.
De l'april.
So it is not just a free software problem.
Une volonté politique de prendre le contrôle du net.
Privatisation de ce bien commun.
Avec Luc, Manu et Nico.
Des mouchards dans nos ordinateurs.
Des coups de poutoir contre la neutralité du réseau.
Revue de presse de l'april, semaine 45 de l'année 2012. Salut Nicolas.
Salut Manu.
Salut Luc.
Alors, sommaire.
Donc, 7 articles, pas une grosse revue de presse, mais ça fait l'affaire. Donc, on va parler un petit peu d'interopérabilité, d'éducation une deuxième fois, l'ARM, ou l'ARM, je ne sais plus comment on dit, les entreprises intelligentes, l'ouverture des données publiques, et pour finir, on va remettre une couche sur les brevets logiciels, parce que les brevets logiciels, on en mange, c'est d'actualité.
Direct gestion, assemblage du puzzle multiplateforme Google, Android, Windows, macOS, par Gilles Arnoux.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Joli petit article sur l'interopérabilité entre les matériels. Avant les fêtes, c'est utile.
Oui, donc l'article en fait part du constat qu'aujourd'hui, sur toutes les plateformes qui existent, on a des gros problèmes d'interopérabilité. L'exemple qu'il donne, c'est un fichier vidéo qui va être mis sur un Mac qui sera complètement illisible sous un Windows ou sous un Linux. Les problèmes de système de fichiers aussi, un disque dur qui serait partitionné pour Windows ne fonctionnerait plus sous Linux. Et donc, ils essayent de voir quel système pourrait résoudre ce problème.
Et en gros, je remarque, moi, c'est que l'open source, le libre, n'est-ce pas, est en bonne position pour essayer de résoudre ces problèmes d'interopérabilité, parce que, simplement, on a accès aux sources, on a accès aux capacités, les protocoles sont plus facilement modifiables et ils peuvent évoluer. On est plus dans une capacité à répondre à ces problèmes-là. Je ne suis pas sûr que les entreprises utilisent vraiment le libre pour ça aujourd'hui, malheureusement, ça n'a pas l'air d'être toujours le cas, mais en tout cas, on a cet outil-là. Chose amusante, je vous fais remarquer, c'est le site.
Oui, directgestion.com, ça a l'air d'être un truc d'immobilier.
Eh bien, c'est un truc d'immobilier. J'ai regardé, je ne sais pas pourquoi là, un article de logiciel libre a terminé sur ce site d'immobilier, mais pourquoi pas. Je suppose qu'ils veulent faire du remplissage. Je ne sais pas si c'est eux qui l'ont écrit ou s'ils l'ont récupéré quelque part. Je n'ai pas trouvé, j'ai fait d'autres recherches. On verra s'ils reviennent. En tout cas, moi, maintenant, c'est dans mes scripts. C'est assez rigolo. Vous voulez acheter de l'immobilier, profitez-en, allez lire un bel article.
Mediapart, la révolution dans l'éducation par le très haut débit, le MOOC, M-O-O-C, un article de Jean-Paul Bacas.
Alors le MOOC, qu'est-ce que ça veut dire ?
Donc le MOOC, c'est Massive Open Online Course, c'est en fait le futur de l'éducation, on va dire, avec tout le contenu de l'éducation en ligne, massivement numérique, où les étudiants et les élèves peuvent avoir accès à toute la documentation, les manuels scolaires, des vidéos, des cours, des audioconférences.
Donc rien à voir avec le jeu massivement multijoueur.
Non.
Mais si, tout à voir, le nom, c'est massif, quoi, les gars. Non, ce que j'ai remarqué, moi, c'est, voilà, c'est un article porté par des grands noms, disons les ténors des universités américaines, MIT en tête, et donc voilà, qui propose une révolution. C'est une révolution dans l'éducation, en utilisant Internet, en utilisant le haut débit pour pouvoir emmener les contenus aux étudiants qui seront connectés et qui seront des milliers, voire plus, hein, il n'y a pas vraiment de limite qui est proposée, à suivre les mêmes cours.
Et ben on retrouve, ça fait quasiment 3 semaines d'affilée ou presque, hein, cette thématique du manuel scolaire libre et ouvert, donc il se passe des trucs, ça pousse très fort.
N'est-ce pas ? C'est peut-être une période de l'année qui veut ça, je sais pas, il y a peut-être des vacances un peu partout dans le monde. Remarquons, voilà, il parle des contenus qui devraient être libres, et aussi le fait qu'il faut se méfier un petit peu, les entreprises, il y en a certaines qui vont peut-être essayer de propriétariser tout ça, de privatiser dans le sens nous enlever des libertés, les contenus et l'accès à l'éducation, et donc il faut se méfier, et il faut suivre les mêmes principes, les mêmes outils, les mêmes pratiques que ceux qui font du logiciel libre, parce que nous, on arrive aujourd'hui pour l'instant encore à faire du libre sans avoir été piqué, sans avoir été trop pris sous l'aile de certaines entreprises qui seraient un petit peu malicieuses.
PC Impact, l'April défend les vertus du logiciel libre dans l'éducation nationale, un article de Marc Ress.
Donc on reparle d'éducation, mais ce coup-ci on revient dans l'Hexagone.
Voilà, et avec un article qui cite abondamment l'April, et donc ça fait plaisir.
Il faut croire qu'on a fait un bon travail, mais c'est quoi le travail ?
Donc en fait, c'est Vincent Payon qui a adressé une lettre à tous les personnels de l'éducation nationale, un peu, on va dire, dans la suite de la circulaire Héro, pour amener du numérique sur les postes de travail et dans l'éducation nationale. Et donc l'April avait écrit une lettre à notre cher ministre, en demandant qu'est-ce qu'il comptait faire réellement dans les faits, qu'est-ce qu'il comptait mettre en place, qu'est-ce qu'il comptait promouvoir. Et donc on a obtenu une réponse. Qui est-ce qu'elle est ? Il prend acte de la demande de l'April. C'est un peu comme la circulaire Héro, il n'y a pas vraiment encore de
concret, on pourrait dire.
De concret, ça reste de l'intention, on va dire. C'est plus...
On est encore en début de mandature.
Alors,
donc...
Il cite quand même la plateforme Cial, qui est une plateforme de partage, en tout cas pour aller trouver des logiciels libres notamment, etc. Et là-dessus, un petit peu un regret, parce que ce machin est un peu une sorte de prétexte avec des logiciels qui ont 3 versions de retard, etc. Donc un machin qui n'est pas maintenu.
Oui,
donc,
mais il me semble que ça date déjà d'avance gouvernement. Donc
oui, oui, mais ça veut dire que le machin, il n'est pas maintenu, et donc c'est avancé comme étant une action du ministère et de l'éducation nationale en faveur du logiciel libre, mais c'est plus un prétexte qu'autre chose, malheureusement.
Je remarquerai, je mettrai en avant, le fait que l'April propose de dépoussiérer le droit d'auteur. Les contenus ont besoin d'être un peu plus malléables, de permettre aux professeurs d'être modifiés, de simplement réutilisés, et donc là, le libre peut avoir de l'importance, il ne faudra pas l'oublier.
Et surtout, la lettre envoyé par le ministre, met en avant en fait l'informatique au sens large et plus du tout l'informatique en tant qu'un outil comme ce qui est mis en avant dans le B2I ou qu'un brevet qui est passé par les collégiens, voilà. Et qui se limite juste à l'utilisation de tableurs.
C'est un point important, voilà. Parce que c'est vraiment une chose sur laquelle on insiste et le groupe éducation insiste depuis très longtemps à l'April, et il n'y a pas que lui, il y a pas mal de gens comme Archimbaud par exemple, qui enfoncent le clou là-dessus. L'informatique doit être enseignée comme une matière à part entière si on veut pouvoir maîtriser et comprendre.
Et là on reprend l'actualité, il y a eu pas mal d'articles dans pas mal de médias qui rappellent qu'il faut apprendre aux jeunes l'informatique au sens vraiment de la programmation des algorithmes. C'est utile, et ce sera utile.
Silicone.fr, les systèmes d'exploitation open source affûtent leurs armes. Un article de David Feuget. Donc super jeu de mots. ARM, c'est quoi déjà ?
Donc ARM, c'est en fait un système de processeur, donc qui n'est pas très courant pour le grand public, mais qui en même temps se cache partout, puisqu'il se trouve dans tous les téléphones, dans toutes les tablettes, dans tout le matériel embarqué. Et aujourd'hui, seuls les PC bureautiques et les serveurs échappent à la puissance du ARM.
Oui, mais pourquoi on l'embarque dans nos poches et pas dans nos ordinateurs ?
Parce que en fait, il était très utilisé au départ parce qu'il est économe en énergie. Il est très bien pour des petites applications qui n'ont pas besoin d'une grosse puissance de calcul. Donc il s'adaptait parfaitement bien à des téléphones. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il s'adapte aussi très très bien sur du système serveur. Et en particulier, on a déjà des applications dans les NAS, donc des serveurs de stockage à la maison.
Alors je tiens à rajouter, j'ai vu passer des articles. Apple, qui fait des téléphones, hein, comme tout le monde le sait, est en train de penser à utiliser l'ARM aussi sur leurs ordinateurs pour essayer d'un petit peu d'homogénéiser leur architecture. C'est Intel qui doit faire la tête parce qu'eux, ils ont l'autre catégorie de microprocesseurs qui marche le plus longtemps et qu'on connaît bien, mais qui est consommatrice d'énergie.
Voilà, donc là, il y a des versions 64 bits haute performance, donc un truc qui dépote. Et l'article fait un petit peu la liste de ce qui s'est adapté en termes de serveur. Et donc, le logiciel libre est en pointe. Il y a quand même plein de choses de type dans le BSD, OpenSUSE, Ubuntu, etc., qui sont déjà adaptées, alors que les Unix propriétaires sont à la ramasse.
Et les Windows ont
Microsoft est en train de se tâter pour voir s'il y va, il y va pas.
Ah, ils ont une version de Windows 8 pour des téléphones ARM, mais avec des licences un peu pourries, si j'ai bien compris.
Ça marche pas très bien, il y a encore tout à porter. C'est un peu le problème du ARM, c'est que dans le monde open source et libre, ça marche très très bien. On cite par exemple Debian qui fonctionne
depuis longtemps.
Depuis très longtemps sur ARM. Un Windows, c'est quasiment impossible à faire tourner, un Mac, on n'en parle même pas.
Le cercle Les Échos, l'entreprise intelligente, un casse-tête, point d'interrogation par Stéphane Gaillard. Donc, disons-le clairement, c'est un article de pub.
Oui, mais tu dis ça parce que c'est un gars de Red Hat, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Et donc, c'est le patron de Red Hat France qui s'exprime, donc qui fait un bilan sur l'avantage du libre pour l'entreprise. Donc, il y a plein de très bons arguments, tout à fait judicieux, qu'on connaît déjà bien. Je ne pense pas que ce soit la peine de les détailler de trop.
Non, mais j'insiste, hein, y a beaucoup de bons arguments. L'article n'est pas si mal, parce que je vous vois venir.
Il y a quand même quelques raccourcis qui sont faits et qui sont assez dommages. Moi, j'en citerai surtout deux. Le premier, c'est la confusion entre licence open source et support. Ou pour lui, en fait, d'ailleurs, il le dit clairement, l'open source, c'est une licence, plutôt un abonnement en fait, d'aide et support, au contraire du propriétaire, qui serait plus un achat initial de l'application.
Ouais, si on le lit et qu'on n'y connaît rien, on croit que pour avoir du logiciel libre dans son entreprise, il faut payer nécessairement. Or, on peut effectivement aller souscrire à un contrat de service chez un fournisseur, mais on peut également se lancer dans l'aventure d'installer son application métier tout seul et de la paramétrer.
Oui,
et ça, il ne le maudit pas, quoi.
On va dire Red Hat fonctionne effectivement grandement par abonnement, mais il y en a d'autres qui s'appellent CentOS, qui sont une copie de Red Hat, et pourquoi pas, c'est ça l'avantage du libre, qui ne nécessite pas tout ça, c'est une communauté et des gens. Mais Red Hat est très bien vu pour plein de grosses boîtes. Hein. Moi, j'apprécie au minimum de les voir arriver, parce que les grosses boîtes les apprécient, ils ont des certitudes que ça fonctionne bien sur leur matériel, sur leurs ordinateurs, et ils payent pour ça, ils font venir des gens. Il y a des succursales Red Hat à Paris, donc ils sont assez bien implantés en France.
Voilà, dans les arguments, moi, quand le positif parce qu'on dit du mal, mais oui. C'est un argument qui ressort très souvent quand on a ce type d'articles qui sont des tribunes de patrons de boîtes, c'est qu'ils mettent vraiment l'accent sur la souplesse en disant on est un peu moins cher, mais je pense qu'aucun fournisseur dira on est cher, mais on vous offre beaucoup plus de souplesse que les systèmes propriétaires, et ça c'est vraiment l'argument qui ressort très très souvent dans ce type d'article. L'usine nouvelle, nous voulons amplifier la politique d'ouverture des données publiques. Un article, plutôt une interview de Rida Loukil.
Interview de qui ?
Donc c'est Fleur Pellerin qui est ministre chargée de l'innovation des PME et de l'économie numérique.
Et donc une jolie photo et une explication, elle a débarqué dans une entreprise qui travaille maintenant pour l'État et qui va faire le support des logiciels libres. On dit le nom ?
Moi, je la trouve pas très à son avantage sur cette photo, mais bref, donc c'est l'Inagora qui est une des grosses boîtes du libre qui s'est distinguée récemment en raflant toute une série de contrats avec l'État pour l'équiper, etc. Voilà, où le patron de l'Inagora participe également à Terra Nova, qui est un think tank proche du PS.
Oui, dont on a parlé il y a pas si longtemps.
Voilà, donc quelqu'un qui a des acquaintances politiques et en tout cas, bon, ça marche et tant mieux pour sa boîte.
Bon, on pourra remarquer qu'elle met en avant les petites entreprises, qu'elle rappelle, voilà, la circulaire, le libre qui va être un petit peu poussé par le gouvernement à un moment ou à un autre, mais voilà. Bon, on est encore sur les intentions.
On est sur des intentions et le libre est vraiment pas poussé. Le mot d'ordre, c'est plutôt de pousser au numérique. Pousser au libre, c'est peut-être encore un peu tôt et on attend de voir les actions mises en œuvre.
Alors, il y a deux types d'actions qui sont intégrées, qui sont présentées. Il y en a une qui est donc de favoriser les PME à passer au numérique et à toutes ces technologies-là, en disant qu'on est en retard par rapport aux autres grands pays d'Europe. Donc là, il n'y a rien de particulièrement centré sur le libre. Et après ça, il y a l'effet exemplaire de l'État qui, par contre, va financer de la recherche et développement et s'équiper avec du libre. Donc c'est un peu les deux éléments. 01net, guerre des brevets, Apple débouté en justice face à Motorola, dépêche de l'AFP.
Oui, il me semble que ça a été repris, mais après tout, un long article qui montre, il semblerait que la guerre se termine peut-être.
Apple avait encore à nouveau porté plainte contre Motorola pour des violations de brevets. Bon, ils ont vraiment l'habitude et ils sont spécialistes en ce moment de dépôt de brevets et de porter plainte.
Alors voilà, Motorola appartenant à Google a été racheté il y a peu de temps, et on avait dit à l'époque que Google rachetait Motorola essentiellement pour ses brevets.
Et on n'a peut-être pas tort en disant ça.
Apple a été débouté parce que le juge a reconnu, donc ce qu'on appelle les F-rounds, c'est le fair use, donc l'usage
légitime,
raisonnable et non discriminatoire.
Voilà. Parce que, en gros, c'est quand une boîte n'a pas le choix que d'utiliser un brevet, de violer un brevet pour arriver à ses fins, et le juge a reconnu qu'il avait le droit de ne pas payer le plein tarif.
Mais
là, c'est l'inverse, c'est parce que ce sont des brevets que Motorola détient et qu'Apple utilise, et Apple trouvait qu'on lui faisait payer de trop et que
et que en fait, bah, pour ces raisons que tu expliques, le fair use, c'était quand même pas normal. Et donc, bah, le juge a dit, bah, voilà, le prix est raisonnable. Donc, c'est non discriminatoire parce que c'est accessible.
Je remarquerai qu'il y a un autre truc qui vient de tomber il y a pas longtemps. Le design, le brevet de design aux États-Unis, le brevet de conception, a été validé pour ce qui est de la forme des téléphones, donc avec les coins arrondis. C'est toujours marrant à rajouter, même si ça mène à pas grand-chose. Hein. C'est un brevet de conception, ce qui n'existe pas tout à fait en Europe, c'est non, sous d'autres termes.
Ce qui n'existe pas du tout.
Mais je crois qu'ils ont quand même enregistré ces formes-là, et donc on va pouvoir encore rigoler pendant voilà. De longues semaines. Il n'y a pas de limite.
Donc évitez les rectangles arrondis, vous arrivez à payer Apple.
Bah merci, bonne semaine tout le monde.
Bonne semaine.
Bonne semaine à tous.
C'était la revue de presse de l'Association pour la promotion et la recherche en informatique libre, l'APRIL, proposée par Emmanuel Charpentier, Luc Fievet et Nicolas Vineau. La revue de presse de l'APRIL, c'est aussi dans Divergence Numérique tous les jeudis à 12h30 et 17h30.
Et oui, mon garçon, c'est tout à fait ça. C'est dans Divergence Numérique 147e du nom. Dans un petit instant, on sera avec Jeanne Tadeuse au téléphone, chargée de mission pour l'April. L'April qui a fait une analyse détaillée de la circulaire signée du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, datée du 19 septembre 2012, et qui présente des orientations et des recommandations sur le bon usage des logiciels libres dans l'administration française. On parlera aussi avec elle du brevet unitaire qui est toujours sur le fil du rasoir en Europe. Et les dernières décisions en la matière ne sont pas très encourageantes. Le fil musical de cette divergence numérique, c'est l'EP sorti en 2012, On Sundays I Dream, je rêve les dimanches, c'est Mike Hemsley et Max Fotheringham. At my door.
thousand different things, flying with a thousand pairs of wings, living on another piece of land, just trying to do the very best I can, drifting through a thousand different things, flying with a thousand pairs of wings, living on another piece of land, just trying to do the very best I can.
Voilà, c'est de la musique libre qu'on écoute dans Divergence Numérique. En l'occurrence, là, le duo s'appelle Mac Candless. Et puis, le temps de résoudre un petit problème de ligne téléphonique, on sera au téléphone avec Jeanne Tadeuse dans un tout petit instant. Pour l'heure, eh bien, on va s'écouter un autre extrait, tiens, de ce groupe.
I'm alive, she said. I could cry, but I won't. Follow me, she said as she started to run. And I watched on as the rain came down. In a smile, glint in her eye, a little look, she's gone. She didn't care as they watched on by. We were soaked to the bone.
just a comeback game. So we ran under the pouring rain. Turn the corner, just a comeback game.
McCandless sur Divergence Numérique dans Divergence Numérique, et les dieux du téléphone sont décidément contre nous. Impossible de joindre, de joindre notre ligne téléphonique qui ne fonctionne décidément pas. Eh bien, tant pis. Par rapport justement à cette analyse détaillée de la circulaire du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, analyse détaillée de l'April, elle souligne que la circulaire signée par le Premier ministre présente officiellement des orientations pour l'usage des logiciels libres dans l'administration destinés aux services de l'ensemble des ministères. Elle a pour objectif de présenter les résultats des travaux des directeurs des systèmes d'information, les fameux DSI, des ministères, et de la direction interministérielle des systèmes d'information et de communication, la DISIC, ainsi que de demander la mise en place des orientations retenues. Un document qui est donc une bonne nouvelle, avant tout parce que c'est le résultat d'un travail de réflexion de longue date mené par les administrations elle-même. Si l'importance du logiciel libre ne fait pas de doute, il reste important de noter qu'elle est soulignée par les services dans le cadre d'une réflexion interne. De plus, le texte montre une compréhension fine de ce qu'est le logiciel libre, son mode de fonctionnement, son écosystème. La publication par le Premier ministre est enfin un signal politique fort en faveur du logiciel libre. Pour autant, ces bonnes nouvelles ne doivent pas faire oublier quelques points de vigilance sur la suite donnée au dossier. Tout d'abord, l'April s'interroge sur ce qui sera effectivement mis en place dans les administrations. De plus, de nombreux sujets cruciaux pour le logiciel libre ne sont pas abordés. Reste ainsi inquiétante l'absence d'une réelle affirmation de l'usage des standards ouverts par les administrations, ainsi que la révision du référentiel général d'interopérabilité, le RGI. Des difficultés auxquelles se heurtent les utilisateurs, développeurs et éditeurs de logiciels libres devront être enfin abordés. Par la suite, si elles ne sont pas l'objet de la circulaire, ce sont des difficultés auxquelles l'administration risque de se heurter lors du développement de son usage du logiciel libre, qu'il s'agisse de DRM, de brevets logiciels, d'informatique déloyale ou de vente liée. L'April regrette le manque de considération pour l'accessibilité, dans le texte d'abord, car aucune mention n'en est faite, dans la forme ensuite, car la circulaire publiée au format PDF n'est pas la copie d'un document numérique, mais une sorte numérisation d'une version papier de la circulaire. En conséquence, les déficients visuels n'ont pas la possibilité de prendre connaissance de cette circulaire. L'April a toutefois procédé à la retranscription de cette circulaire afin de pallier ce manque de vigilance. Une dernière remarque préliminaire sur le choix de la terminologie de cette circulaire. On peut regretter l'emploi des mots propriété intellectuelle, alors même que cette expression est dangereuse parce qu'elle met dans le même panier de nombreuses notions juridiques comme le droit d'auteur, le droit des marques, des modèles, des brevets, etc., qui ne sont pas définis dans les mêmes contextes. Cela tend à faire croire que ces droits ont des fondements et des objectifs identiques alors qu'il n'en est rien. Par exemple, si les logiciels libres sont basés sur le droit d'auteur, cela n'empêche pas les brevets logiciels de leur être nuisibles. L'April espère donc que cette circulaire est une première étape vers une politique globale en faveur du logiciel libre, avec des actions concrètes sur l'ensemble des difficultés qui verrouillent actuellement son plein développement. Un exemple pourrait être celle mise en place par l'Italie, mais dans d'autres versions sont également possible. Par rapport au brevet unitaire, en ce moment, c'est un projet de règlement européen déposé en avril 2011. L'objectif est d'unifier les titres de brevets et leur juridiction entre les États membres intéressés par le biais d'une coopération renforcée. L'idée qui sous-tend le projet n'est donc pas problématique en soi. En revanche, les modalités d'application actuellement envisagées sont source d'inquiétude pour l'April. Le projet, dans la plupart de ses modalités, serait confié à l'Office européen des brevets, dont les dérives en faveur des brevets logiciels sont dénoncées depuis longtemps par l'April.
ainsi que ça l'a été par différents candidats ou candidates à l'élection présidentielle en France. En effet, l'OEB est partisan depuis sa création des brevets logiciels, alors même que ceux-ci sont interdits par son acte fondateur, la Convention sur le brevet européen. Pour ce faire, l'Office européen des brevets a développé une différenciation artificielle entre logiciels, entre guillemets, en tant que tels, qui ne peuvent être brevetés, et logiciels associés à une invention ou à un support physique qui peuvent l'être. Ainsi, l'OEB a accordé les brevets sur les logiciels lorsqu'ils avaient un effet technique, entre guillemets, bien que ce terme n'ait aucun sens. Cela entraîne d'ailleurs de nombreuses conséquences néfastes, comme le montre la bataille des brevets entre Apple et Samsung à l'automne 2011. Des dérives qui sont dangereuses pour l'innovation en général et pour le logiciel libre en particulier, comme l'April l'a notamment rappelé dans sa synthèse sur les brevets logiciels. En effet, les brevets logiciels nuisent à la création et représentent un coût important pour les entreprises, surtout quand il y a des procès à la clé. Surtout, ils remettent en cause le principe même des logiciels libres, en réfutant l'idée même que les idées sont de libre parcours, c'est-à-dire non attribuables, seule leur application matérielle l'est. Le projet est actuellement débattu en commission des affaires juridiques du Parlement européen. L'April a proposé des suggestions d'amélioration pour qu'ils garantissent le respect du droit et des règles démocratiques. Et les derniers débats sur le brevet unitaire sont pas très encourageants. Ce 13 novembre 2012, la commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale devait discuter de ce brevet unitaire avec la présentation d'un rapport d'information par les députés Jacques Millard et Audrey Linkenheld. À la place, on a pu assister à la reprise des antiennes de la Commission européenne et de l'Office européen des brevets sur l'importance politique de la création du brevet unitaire. Tout juste a été mentionné le fait que la Cour de justice de l'Union européenne risquait fort d'annuler le projet en raison de son incompatibilité avec les traités fondamentaux de l'Union. L'April regrette l'aveuglement complet de la part des députés qui ont présenté le projet. Tout à la certitude que la France garderait une place importante dans le dispositif, les dangers que le brevet unitaire représente pour l'innovation et pour le contrôle démocratique ont été totalement évacués. L'intervention de Jacques Millard avait pourtant bien commencé avec le rappel sur la nature anticoncurrentielle du brevet qui est utilisé comme une arme par de nombreuses entreprises, en premier lieu dans le domaine logiciel. Mais son propos s'est concentré sur le fait que le projet est depuis longtemps en cours de discussion et qu'il était crucial de parvenir à un accord, même si celui-ci était instable juridiquement. Selon lui, le brevet est politique et non pratique. Politique puisque le système actuel répond déjà à 95% des besoins et qu'il y avait de forts doutes quant au fait que le brevet unitaire permettrait de baisser les coûts. Audrey Linkenheld s'est concentrée dans son intervention sur la place accordée à la France avec la nouvelle juridiction unifiée. Le français reste une des langues de référence et le siège de la juridiction unitaire sera à Paris, selon elle. C'est une justification suffisante pour accepter le projet. La députée s'est également félicitée que le droit matériel applicable aux brevets contenus dans la Convention sur le brevet européen, la CBE, ne soit pas modifié, créant une structure hybride et probablement illégale au regard du droit européen. Sur ce point, on peut d'ailleurs noter que le European Scrutiny Committee britannique, équivalent de la Commission des affaires européennes outre-Manche, avait souligné l'illégalité de ces modifications, également rejetées à l'unanimité par le Parlement européen. Elle ferme ainsi volontairement les yeux sur l'absence de tout contrôle démocratique et sur les risques de brevetabilité du logiciel engendré par le nouveau système juridictionnel qui mettra en œuvre ces dispositions. Lors de la séance des questions, elle s'est d'ailleurs félicitée que l'Office européen des brevets ne soit soumis à aucun contrôle démocratique avec le nouveau dispositif. Au contraire, et alors que la grande chambre de l'OEB avait elle-même demandé aux législateurs de reprendre la main face aux dérives de la brevetabilité à tout va de l'Office, le nouveau système exclut d'autant plus toute redéfinition du champ de la brevetabilité. Un tel aveuglement est inquiétant, d'autant que de très nombreuses voix venant aussi bien d'universitaires comme l'Institut Max Planck que d'entreprises et même du Conseil économique et social européen se sont pourtant élevées pour dénoncer les dangers du projet. Les députés connaissent ces dangers puisque Gérald Cédrati-Diné, expert bénévole sur les brevets à l'April, avait été auditionné, mais ils ont préféré jouer la politique de l'autruche, regrette Jeanne Tadeuse, responsable des affaires publiques à l'April. Pour un symbole politique, on fait courir un réel risque à l'innovation et à la liberté de programmer en Europe en mettant en place un système anticoncurrentiel sans aucun garde-fou démocratique. On peut retrouver toutes ces infos ainsi que l'analyse détaillée de la circulaire Héro. Évidemment, sur le site de l'April, des liens directs sont disponibles sur divergence-fm.org. À présent, on va partir à Genève. À Genève, où se tenaient cette année les rencontres mondiales du logiciel libre. Et ça avait été l'occasion de rencontrer les gens qui développent un logiciel de traduction. Un logiciel libre, évidemment. Et c'était sur Radio RMLL, sur le 98.3 MHz à Genève. On va parler traduction, langage avec le logiciel Olanto. Et c'est Karim Benzineb qui est avec nous, avec Jacques Guyot. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors, Olanto, pourquoi ce nom? Parce que ça fait un peu penser à Espéranto, évidemment, pour la dernière syllabe. Oui. Mais puis lent pour les langues. Alors, est-ce que c'est le fruit d'un savant, d'une savante réflexion marketing ou y a-t-il une autre histoire, une autre anecdote derrière ce nom?
Non, alors c'est beaucoup plus simple. C'est juste l'abréviation de Open Language Tools.
D'accord. Ah bah oui, voilà, ça tombe sous le sens.
Donc ça marche.
Alors comment est né ce projet et quel âge a-t-il, entre guillemets?
Alors la conception du logiciel lui-même est assez ancienne, ça remonte à une douzaine d'années. Jacques et moi, à l'époque, on avait une société d'édition de logiciels et on faisait des outils d'aide à la traduction, essentiellement pour les organisations internationales à Genève, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Depuis quelques années, on a changé un peu la formule. C'est juste Jacques et moi, une toute petite société de consultants qui s'appelle Simple Shift. Et il se trouve que d'anciens clients nous ont demandé d'écrire les nouvelles versions de ces logiciels-là. Mmh. Et donc là, on a dit on veut plus devenir des éditeurs de logiciels parce que c'est juste les deux.
À l'époque, c'était un logiciel propriétaire ?
Voilà, c'était D'accord. propriétaire, mais on avait une équipe de développeurs, des ingénieurs, etc. Voilà. Donc là, on a dit on va procéder différemment. On veut bien l'écrire pour vous, mais vous financez ce que vous voulez financer. On développe exactement ça. Et ensuite, on le distribue en logiciel libre. Mmh. Et curieusement, les organisations ont accepté. Donc je voulais passer un grand coup de chapeau au CERN au départ, parce que c'est avec eux qu'on a démarré le projet. Et donc la version de base de cet outil, du premier outil qui s'appelle MyCat, a vu le jour comme ça. Alors la fondation Olanto, donc c'est une fondation suisse à but non lucratif, on l'a mise sur pied juste à l'instant. Là, la semaine dernière, on a signé les papiers chez le notaire. Et la première version de MyCat est publiée depuis hier soir. Donc, c'est vous dire si c'est frais. Mais on a mis justement en place cette fondation pour distribuer ces logiciels et puis les gérer. On va évidemment contribuer activement. On a financé cette fondation. On va contribuer activement à ces activités. Mais on lance aussi un petit appel. On aurait besoin d'un coup de main pour faire le travail.
Alors, dans quel domaine particulier vous recherchez des contributeurs?
Alors, pour répondre à cette question, il faut peut-être que je décrive rapidement ce que doit faire la fondation. Mm-hmm. Donc, sa mission, c'est de constituer une boîte à outils complète, d'outils d'aide à la traduction. Au départ, on a déjà un logiciel qu'on distribue, et puis au fil du temps, on voudrait l'étoffer un petit peu. Donc, on cherche à la fois quelques développeurs, pas beaucoup, un petit nombre, mais des gens assez motivés, pour nous aider à écrire les choses qui restent à écrire. C'est surtout du Java, en fait. Mmh. Et puis, on cherche aussi des corpus, c'est-à-dire des collections de documents. Alors, très important qu'ils soient libres de droit.
Oui.
Et qu'on puisse mettre dans ces outils pour d'abord montrer ce qu'ils peuvent faire. Et puis, les traducteurs peuvent s'en servir directement. C'est gratuit, c'est sur la fondation olanto.org. Donc, le logiciel lui-même, c'est les pelles et les pioches. Mais s'il n'y a pas de contenu dedans, il ne sert pas à grand-chose.
D'accord.
Donc voilà, on cherche à la fois un peu des gens pour nous donner un coup de main sur le codage et puis un petit peu de contenu.
Donc il s'agit bien d'un outil d'aide à la traduction pour des traducteurs et non pas d'un traducteur automatique en quelque sorte, comme on peut le voir sur les modes d'emploi de certains appareils qui sont rédigés n'importe comment
Alors, la traduction automatique, on peut dire un petit mot. D'abord, elle a fait des progrès avec Google Translate. Je pense que pas mal de gens ont testé ça récemment. Donc, ce sont des méthodes statistiques qui sont complétées par des petites méthodes, disons, plus linguistiques. Mais à la base, c'est vraiment des méthodes statistiques. Ça a beaucoup progressé. Il ne faut pas lui jeter la pierre, cet outil-là. Il peut avoir son utilité dans certains cas assez particuliers. Et il se trouve qu'Olanto a déjà en fait un outil comme ça. Il n'est pas encore distribué parce qu'on n'a pas encore de version bien facile à distribuer. Mais on a un roadmap et d'ici le mois de septembre, on va en distribuer un. Il y a un open source qui s'appelle Moses, qui est fait à l'Université d'Édimbourg, qui est un peu le moteur universellement utilisé dans le métier. Et autour de ça, on a développé ce qu'il faut pour en faire une solution professionnelle. Mmh. Donc ça, ça tourne aujourd'hui dans des organisations internationales, y compris au CERN. Et ce sera distribué vers le mois de septembre. Mais il faut vraiment le voir, c'est pas un outil qui fait la traduction à la place du traducteur, c'est vraiment un outil qui va proposer une traduction dans certaines situations où il est assez efficace.
Et justement, pour proposer ces multiples pistes de traduction au traducteur, ça marche comment techniquement?
Alors le concordancier, l'outil MyCat qu'on a déjà commencé à distribuer depuis hier, lui en fait tout ce qu'il fait c'est exploiter des traductions existantes. C'est-à-dire quand on a des documents qui ont déjà été traduits par le passé, on les exploite en disant voilà ce terme que tu cherches, voilà un document en anglais par exemple où il apparaît, et voilà en face le document français, donc sa traduction telle que ça avait été fait avec tout le contexte autour. Donc le traducteur, la traductrice va regarder ça et dire je peux m'en servir ou pas. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, une sorte de moteur de recherche amélioré, moteur de recherche bilingue, on va dire. Par contre, le traducteur automatique, lui, c'est très différent. On l'entraîne, il construit un modèle probabiliste, il regarde l'anglais, il regarde le français, il dit, ben, le plus souvent, cette expression-là a été traduite comme ça. Donc, je vais considérer que ça, c'est une bonne traduction. Et puis, il apprend un petit peu à reconstruire une phrase à partir de fragments. Et puis, il essaye de remettre un peu des majuscules, des points là où il faudrait. C'est pas encore Byzance, hein, mais ça a déjà bien progressé. Et puis, je pense que dans les années à venir, c'est assez prometteur.
Et on peut dire qu'on peut garder une phrase sur deux à peu près.
Voilà. Actuellement, une phrase sur deux est à peu près utilisable en traduction automatique.
D'accord. Est-ce qu'on peut envisager qu'un jour, le logiciel arrive à faire la différence dans le contexte entre une expression et une autre, à traduire des romans ou de la poésie ?
Alors, je dirais la stylistique, c'est pas le plus dur. Mm-hmm. Parce que comme Moses, il apprend comme un enfant. Il apprend ce qu'on lui montre et il répète. Donc si vous lui apprenez bien, il répète bien et il fait des bonnes phrases. Par contre, là où c'est beaucoup plus embêtant, ce sont les ambiguïtés. Si vous avez un mot comme avocado, avocat pardon, en français, en anglais ça va être avocado, le fruit, ou bien lawyer, l'homme de loi.
Oui.
Et ça, effectivement, c'est le contexte qui est porteur de l'information. Alors, un outil comme Moses regarde un peu les mots autour, mais il travaille à l'unité de la phrase. Et souvent, le contexte, il est avant ou après. Donc, il va probablement falloir qu'on l'étoffe un petit peu. On est encore très, très loin de l'outil qui peut se débrouiller tout seul. Par contre, dès à présent, dans un domaine, ce qu'on appelle du vocabulaire contrôlé, des phrases courtes, simples, techniques, ça peut être effectivement de la localisation de logiciels, ça peut être des prévisions météo. Tout ce qui est peu ambigu, il s'en sort plutôt bien.
Ouais, oui, ça paraît assez logique. Si c'est pas ambigu, c'est que mathématiquement, il y a...
Voilà,
y a
la probabilité est très élevée, donc il fait plutôt du bon travail.
Alors, par rapport aux autres logiciels qui existent sur le marché, peut-être qu'ils soient libres ou qu'ils ne soient pas libres, les particularités de ce logiciel, ce sont lesquelles, en fait ?
Alors, pour MyCat, qui est le concordancier, donc le moteur de recherche amélioré, on va dire, là, c'est assez simple. Sur le marché, il y a 3 produits, et les 2 autres sont propriétaires. Donc, ils sont assez coûteux, ce sont des bons outils, mais il n'y avait rien dans le domaine du logiciel libre. Et puis, comme le métier du traducteur change, de plus en plus, on demande à des traducteurs qui sont loin de travailler de façon collaborative sur des documents, on est obligé d'avoir un outil web-based. Et puis, on ne peut pas commencer à compter des licences, parce que parfois, vous avez 150 traducteurs qui travaillent sur un projet. Mmh. Et si vous devez payer une licence pour chacun, on n'y arrive plus, quoi.
Ouais.
Donc, il y avait de toute façon une place pour le logiciel libre là-dedans. Et la particularité de notre outil, c'est surtout ça. Au départ, il fait à peu près ce que font tous les autres concordanciers, mais il est libre de droit. L'outil Moses, donc l'outil de traduction automatique, statistique. Alors, il y a effectivement pas mal d'outils propriétaires. Moses est le seul libre. Mais Moses n'est pas une solution en tant que telle. C'est un décodeur. Mmh. Et autour, il faut des modules pour pouvoir transformer le décodeur en logiciel professionnel. Et c'est ça qu'on a écrit et qu'on distribue. Donc, la particularité du Moses, ce serait plutôt d'être le premier outil complet dans ce domaine-là. Voilà, donc ils ne font pas plus ou mieux que les autres, ils font la même chose, mais ils sont libres de droit.
Oui, et puis surtout, ce qu'on peut ajouter, c'est que par rapport à l'utilisateur, c'est vraiment entraîné sur le style de ses documents et sur son vocabulaire. Donc par exemple, au CERN, c'est vraiment les textes de physique qui vont être...
Une anecdote ici, on faisait des tests sur les avis de vacances, les offres d'emploi au CERN, et ils cherchaient un docteur en physique nucléaire, et l'outil a super bien traduit ça, vraiment, c'était très très bien. Et ensuite, on a traduit un appel d'offres pour un jardinier, et là, l'outil s'est complètement planté, parce que les jardiniers ont tendance à ne pas utiliser d'accélérateur de particules pour couper l'air, et donc, ils ne savaient vraiment pas, ils ne comprenaient rien, quoi. Les phrases étaient mal foutues. Voilà, donc ce sont des outils qu'il faut beaucoup personnaliser pour les clients.
L'avenir des logiciels de traduction, ça pourrait être un jour d'arriver à traduire de la grande littérature ou avec une espèce de fonction esthétique.
Je le vois.
Ou ça restera toujours l'apanage du cerveau humain.
Je pense qu'il ne faut pas confondre les utilisations. Aujourd'hui, il y a deux domaines de la traduction. Il y a la traduction esthétique. Tout ce qui est littérature, en fait, c'est un plaisir. Il faut que ça en reste un. Et tout ce qui est artistique, à mon avis, c'est l'apanage de l'humain. Par contre, aujourd'hui, en traduction, on a un gros, gros souci. C'est qu'on a une planète entière, une économie mondialisée et les gens qui n'arrivent pas à se comprendre. Et là, il faut vraiment, je dirais, une traduction utilitaire. Et je crois que la traduction, surtout automatique, et tous les outils d'aide à la traduction, ils vont d'abord aller dans ce sens-là. En plus, c'est là qu'il y a du cash. Mais je pense qu'ils vont d'abord être utilitaires avant d'être artistiques.
Karim Benzineb, merci pour
cette
explication. Jacques Guyot, merci aussi. Voilà, c'était enregistré sur Radio RMLL à Genève ce mois de juillet 2012 lors des rencontres mondiales du logiciel libre. Pour l'année prochaine, ce sera probablement, mais ce n'est pas encore officiel, à Bruxelles. Et pour 2014, Montpellier est en lice. Mais ça n'est pas la seule. On va écouter un autre extrait de « On Sundays I Dream ». Je rêve les dimanches. Le dimanche, un jour propice à la réflexion. Un jour long et pensif où l'on prend la mesure des événements de la semaine passée tout en regardant vers les jours à venir. C'est un jour à être introspectif, à s'octroyer les plaisirs de la pensée et peut-être à errer un peu au-delà de ce que perçoit l'esprit, s'autorisant le rêve. C'est une petite introduction du groupe, ce duo formé par Mike Hemsley et Max Fotheringham, enregistré et mixé par Wouter Gortz pour Higher Living Records, qu'on peut retrouver sur higherlivingrecords.com, bien évidemment. Et là, c'est Not At Home qu'on écoute.
The fall of physical.
Les dimanches, je rêve, on Sundays I Dream, un EP sorti cette année par le groupe McCandless qu'on peut retrouver en libre téléchargement puisque c'est un répertoire sous licence Creative Commons by NCND 3.0 sur www.higherlivingrecords.com. Et c'est Not At Home qu'on écoutait, dernier extrait de ce duo pour cette divergence numérique. Ce samedi 17 novembre a lieu une install party. Amenez votre ordinateur ou une clé USB, repartez avec des logiciels libres, gratuits et fonctionnels pour votre utilisation quotidienne. Les meilleurs spécialistes de la région s'occupent de tout. Vous êtes à l'installation, vous forment et vous accompagnent. C'est ce samedi 17 à la médiathèque de Moggio. C'est gratuit, mais l'inscription est conseillée sur, bien sur le site, par exemple, de la médiathèque de Moggio, médiathèque-moggio-carnon.com. Et oui, figurez-vous, les membres de l'association Montpellier Libre, spécialiste des logiciels libres, vous accueillent, vous orientent et vous aident dans votre démarche. L'association qui regroupe des utilisateurs de logiciels libres Héroleté et qui est membre fondateur de la Fédération régionale des utilisateurs du libre pour le Languedoc-Roussillon, fédération qui porte la candidature RMLL 2014. Affaire à suivre. Et puis, pour vos agendas, on vous rappelle les agendas du libre.org pour la France, .qc.ca pour le Québec, .be pour la Belgique, .ch pour la Suisse. Et puis, si vous êtes au Quorum cet après-midi, il est encore temps de voir l'installation transmédia de muséographie itinérante transversale. On recevait mardi Corinne Cartaillac et Didier Lannoy pour en parler. Particularité de cette installation, outre son intérêt culturel, artistique et technologique, les installations interactives ont été réalisées uniquement avec des logiciels libres, que ce soit l'OS Debian GNU Linux, Icecast pour le stream, Enjabird pour le XMPP, Kandi.js pour le JavaScript, Firefox, FFmpeg 2, Teora pour l'encodage vidéo, etc., etc., etc. On retrouve toutes ces infos sur musetransversal.org, musée transversal, transversal S-A-L. Et puis, on salue notre ami Fred Monin qui a activement participé au côté libre de cette excellente installation à visiter encore aujourd'hui au Quorum dans le cadre du Digital World Summit de l'IDAT, au rendez-vous du logiciel pas libre. Et puis voilà, on va se quitter là avec notre petit générique en vous souhaitant une excellente fin de semaine. On vous souhaite de rester libre. Et puis on se retrouve la semaine prochaine, en tout cas pour ce qui concerne le logiciel libre. Très belle fin de nuit, de journée, d'après-midi, de matin sur les ondes de Divergence FM. Terra salut. Networks. Terra States. Terrace Networks. Terrace States. Terrace Networks.